Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. C'est la 25e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Fred qui est aux manettes. Bonsoir Fred.
Bonsoir.
Et Sylvie se rafraîchit en Bretagne, elle a bien raison. Alors, l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, émission trait d'union femmeslibres.blogspot.com. Et en allant sur notre blog, on peut réécouter les émissions, avoir le programme. Pensez aussi à nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors, le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex. Opus poétique, Angèle Paoli, voix sous les voix, avec un accompagnement plastique de Marie Herkberg aux éditions Elmanard. Et puis en troisième, Michèle Rollin, réalisatrice de Mémoire de l'histoire ouvrière, Le Métron, à Hibou Productions. Et donc sur Jean Métron. Et puis. Dans l'opus poétique, il y a une deuxième partie avec la revue Voix d'encre, numéro 72. Et donc, là, on était à Michèle Rollin pour Mémoire de l'histoire ouvrière, Le Métron. Et on terminera par des informations, des communiqués, des rendez-vous. On démarre avec Féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. En Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes, reconnaissons le féminicide.
Chaque semaine, nous faisons état de la recension dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France, chiffre à minima. De nombreuses affaires non comptabilisées sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Non, ce ne sont pas des drames familiaux, ni des drames de la séparation, ni des crimes passionnels. Ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux hommes et qui les autorise à posséder femmes et enfants, à disposer de leur vie. Alors le 42e féminicide, c'était vendredi 20 juin à Gagny, en Seine-Saint-Denis. Une femme de 55 ans a été attaquée à coups de hache par son ex-compagnon dans la gare. Elle a succombé peu de temps après à l'hôpital. Une autre femme de 20 ans qui l'accompagnait a également été agressée avec la même arme par cet homme. Elle se trouve toujours en urgence absolue. Le meurtrier qui a tenté de fuir a été rapidement interpellé sur les lieux. Il est depuis en garde à vue. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Le site www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
Voilà, et on va passer à l'opus poétique. Angèle Paoli, Voix sous les voix, et la revue Voix d'encre, c'est ça, numéro 72. On passe l'indicatif.
Bonsoir, donc Voix sous les voix, un recueil d'Angèle Paoli avec des peintures absolument superbes de Marie Erkberg. Et en fait, c'est une construction protéiforme, très riche, et qui rend hommage, une construction littéraire, qui rend poétique, qui rend hommage à 10 femmes poétesses qui se sont données la mort. Alors, il s'agit de Virginia Woolf, Marine Svetaeva, Sylvia Plath, Ingrid Jonker, Unica Jurne, Alejandra Pizarnik, Anne Sexton, Francesca Woodman. Donc, Virginie Paoli a choisi ces 10 femmes, parce qu'en fait, bon, il y en a d'autres. Hein.
C'est Angèle Paoli.
Oui, Angèle Paoli. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Virginie.
Ah oui, pardon. Angèle Paoli, pardon, parce que je pensais à Virginia Woolf, parce que je vais lire justement autour de Virginia. Donc, Angèle Paoli a fait une focale sur ces 10 femmes poétesses qui ont décidé, voilà, d'arrêter de vivre. Là, je vais lire le texte qui concerne Virginia, donc écrit par Angèle Paoli. Je ne sais quelle dure masse centrale résiste. Oh, cette douleur, cette angoisse. Je succombe. Je perds conscience et maintenant, mon corps se fond. Voix, voix et voix. Les voix, toutes les voix, folie, folie, folie des voix, ensemble, monte, s'élance, s'infiltre, vacille, bouscule, ça vrille sous mon crâne. L'étoile s'ébroue, les chevelures soufflettent, les collerettes grimpent à l'assaut des médaillons, boursouflent le papier peint de la chambre, filent dans le corridor, rejoindre Julia, Leslie, Adriane, George, Vanessa, Stella, Clive. Cessez de me poursuivre, ombre parmi les ombres, cours, ça grippe à mes jupes et toi aussi, flush cocker qui aboie sur mes talons, mince pellicule d'eau. Voilà Mrs. Ramsay, qui aile les enfants. Ce sont les branches du parc qui lui répondent, s'affole au-dessus d'elle. Julia paraît sur le perron. Ensemble, Julia et Mrs. Ramsay fondent leurs silhouettes sveltes, deux en une. Quand la promenade au phare se fera-t-elle aujourd'hui, ou plutôt demain? Les femmes sont incapables de peindre, les femmes sont incapables d'écrire. Ça, c'est en italique. Ça doit être de Virginia Woolf à l'origine. Les vagues sont trop fortes, la mer emporte tout sur son passage. Les embruns submergent le môle, un papillon, une phalène sans doute, se heurte, affolé, aux parois de verre. Poudroie, tourne, monte, descend, tourbillon d'air et d'eau, mélange leur écume. Les arbres frôlent, les branches craquent, louses, ondoient, paisibles, sous la feuillée. La maisonnée murmure, s'éloigne. Les fantômes s'agitent, grandes manches noires qui ailent les nuages, sillonnent le sentier, robes fluctuantes autour des lianes. Les poings plongent dans les poches, les cailloux sombres pèsent, les plis s'envolutent autour des cuisses, s'enroulent, houle douce, caressante, menu tourbillon et bulles de fraîcheur encerclent le corps. Plongés dans les eaux vertes, écume et mousse, algues se mêlent. Échevellement, sans cri ni fureur, flottent des myriades de lumière, rondeurs irisées, dernier soleil, dernier halo, dernière vague, autour du corps lourd qui s'enfonce, s'englue, se débat. Encore un peu peut-être, se laisse submerger, dernier sursaut, qui secoue, plie, se dilue. Le corps s'abandonne, s'allonge, remue, les cheveux dénoués flottent autour, s'enroulent, s'ensorcellent, nuit. Où en étais-je? De quoi parlait-on? Arbre, fleuve, colline des Downs, almanach de Whitaker, chant d'asphodèle, je ne me souviens pas. Tout bouge, tombe, glisse, s'évanouit. Ah, la marque sur le mur. C'était un escargot. Alors, Virginia Woolf a mis fin à ses jours le 28 mars 1941. Elle était âgée de 59 ans et elle est entrée dans l'eau. Elle est entrée dans l'eau et elle s'est noyée. Elle avait mis des cailloux dans les poches de sa robe. Je suppose que peut-être c'était une robe ou une veste. Les peintures de Marie Ekberg sont vraiment magnifiques. En fait, elles sont très lumineuses et ça fait un contrepoint entre les textes en hommage à ces femmes. Et donc, ça se marie vraiment très très bien. C'est un très très bel ouvrage. J'ai oublié de dire que c'était aux éditions Almanar. Alors là, c'est donc Ingeborg Bachmann. Il y a certains passages qui sont en italique. Donc je présuppose que c'est des extraits d'Ingeborg Bachmann. Et puis, il y a la parole, l'écriture d'Angèle Paoli. Alors, ça ne va pas être évident de vous dire, quand c'est en italique, de temps à autre, j'essaierai. Et Ingeborg, Inge, tu es seule de cette lignée dont la mort est marquée du sceau du doute. Nul ne sait si ta mort fut accident ou volonté inconsciente. Mélange d'alcool et de calmant, sans doute, un cocktail de l'un et de l'autre, nul ne sait. La mort, Inge, la mort, ta plus fidèle compagne depuis si longtemps. Je suis ce qui sans cesse pense à la mort, écris-tu derrière le mur. Est-ce ta mort que tu vois dans ton dialogue avec l'oiseau? Est-ce une vision prémonitoire qui te dicte ces vers incandescents? Italique. Qu'en casqué de fumée, je sais à nouveau ce qui se passe, mon oiseau, mon soutien nocturne, quand je suis enflammé dans la nuit, cela crépite dans l'obscurité de la forêt, et je fais jaillir de moi l'étincelle. Est-ce ta réponse à la mort, librement consentie de ton amour? À Paul Celan, l'eau de la Seine, à toi le feu via Giulia, à Rome. Avec la perte de ton amour, c'est le monde entier qui disparaît. Et le monde peut bien disparaître, puisqu'il est à ce point dévasté. Il fait nuit si profonde autour de moi. La mort, dis-tu? Ta première peur de la mort a fait son entrée dans ta vie le 12 mars 1938. Les troupes de Hitler font irruption à Klagenfurt. La mort a ouvert en toi une brèche profonde. Elle s'est infiltrée dans la fêlure. Elle te déchire depuis que tu sais que ton père, ton triste père, est un ardent nationaliste. La brutalité militaire signe la fin de l'enfance. La mort te tient la dragée haute. Depuis, les ombres te poursuivent. Tu deviens ombre toi-même. L'obscur te cerne, que hante sans répit le cauchemar du retour sur la scène, des bourreaux d'hier, et tes yeux pourraient sombrer. T'en serre l'angoisse multiple et profonde. Italique. Je suis enfant de la grande angoisse du monde, suspendu à la paix et à la joie, comme les coups de glas au pas du jour, comme la faux dans les champs mûrs. Ainsi, Inge, tu sinues entre deux sillons, côté sombre, côté lumière, ta soif de vie. Vertige te brûle, tu hantes les confins, limites et frontières te régénèrent. Tu cherches dans les profondeurs la réponse qui te déchire. Ta quête est quête d'absolu, et c'est la force de tes vers qui résout pour toi les énigmes. Je me tiens rayonnante devant les plus profonds abîmes afin de connaître leur sens ultime, et il m'est permis, aux heures magiques, d'aller à l'origine, au fond des énigmes. Entre ces deux extrêmes, ton « je » sans cesse est tiraillé, pris en étau entre les contraires qui le malmènent. Ton « moi » éclaté se tient au bord du gouffre. La raison des choses se dérobe. Où trouver l'équilibre dans ce tourment? Aucun répit avec le temps. Des jours plus durs viennent, le temps en sursis révocable devient visible à l'horizon. Aucun répit avec le temps, si ce n'est là-bas, dans le lieu ouvert des confins rêvés, où se diluent les frontières, frontières du monde, frontières du langage. C'est ce que tu clames et ce que tu écris. Si un mot touche à mes frontières, je le laisse y toucher. Si la bohème est encore au bord de la mer, de nouveau, je crois aux mers. Et si je crois à la mer, alors j'ai espoir en la terre. Mais la mort t'accompagne, qui te guette et te piste la mort de ton amour t'anéanti. Avec la perte de ton amour, c'est le monde entier qui disparaît. Et le monde peut bien disparaître, puisqu'il est à ce point dévasté. Dans aucun chemin, je ne peux plus voir de chemin. Écris-tu dans Aliénation. À quoi répond cet appel lancinant? Voir la lumière une heure seulement, être libre une heure seulement. Ingeborg Bachmann est donc morte à Rome, brûlée vive le 17 octobre 1973. Elle était âgée de 47 ans. Donc voilà, c'était Voix sous les voix d'Angèle Paoli aux éditions Almanach, un très bel hommage à ces 10 femmes poétesses, écrivaines, peinture de Marie Erkberg. Alors, pour c'est l'été, donc là, nous allons entrer dans un univers un peu plus, je vais dire, un peu plus lumineux. Il est question donc de cette revue Voix d'encre. C'est une revue qui est parue au mois de mars, le numéro 72. Et donc là, ce sont des extraits. Il y a plusieurs poètes, des femmes, des hommes. Je vais simplement lire des extraits de Christina Ifoirson. Et nous avons aussi dans ce recueil quelqu'un qui fréquente assez souvent la librairie Publico, qui s'appelle Alain Eludu. Donc, je lis des extraits de Christina Ifoirson. Près du rivage, la mer se gonfle d'orgueil. Massif pointu qui avance, comme un cortège de vérité. Puis l'eau plie, la barrière s'écroule, la mer se fripe, se ride et s'enroule, explose en une mousse blanche qui duplique les nuages. La mer rampe comme des milliers d'insectes, lutte comme le large qui bat le rappel, s'épanche un instant devant des bancs d'algues noires, semblables aux cheveux de noyés disparus. En ce point de conflit perpétuel où deux forces s'affrontent, naît un mouvement immobile, le même qu'il y a 200 ans. Et la répétition charrie les siècles passés. L'espace s'ouvre et se ferme. La mer repart, respire, elle dialogue avec le vent et envoie un signal à l'autre vie. Son psaume n'a ni début ni fin. La rumeur s'éloigne, retour aux origines, retour sans adresse. Alors ça fait un fil avec Virginia Woolf, qui avait écrit un très beau roman qui s'appelle Les vagues. Autre texte, autre poème. La clé se trouve dans la réserve à bois. La serrure est simple. Un quart de tour suffit. Le lieu n'a de précieux que son emplacement. La maison de vacances sent le remugle de l'intermittence. Le premier contact est décisif. Fera-t-elle fonction de chez soi? L'espace de quelques semaines, elle sera le centre du monde. Le robinet goûte à l'infini. Un pince-oreille fuit sous la lirette. Au mur, il n'y a pas d'horloge. Le matelas est mou. Au petit matin, les corbeaux sautent sur la tôle du toit. À la faveur des jours, le sol se couvre de sable venu d'entre les orteils. Sur la table sont amassées des plumes et des cailloux. Les serviettes et les maillots sèchent au vent. Les hirondelles volettent entre les fils à linge. La mémoire de la maison revient. Un dernier pour la route, toujours de Christina Ifoirson. Piqué de grève, hein, il y avait des titres, je les ai omis. Donc là, piqué de grève. Ligne de personnage équivoque. À la même coiffe large et plate, ils épient la mer, formant un édifice indivisible, entre les fissures duquel chantent les rayons du soleil. À moitié dénudés, la peau ridée, balafrée par endroits, ils se tiennent droits. Fiers, sous leurs bras maigres dansent les papillons. Ils posent une question à l'horizon qui ne leur répond pas. Mais ils n'ont pas besoin de mots, tout juste de soupirs entendus. Le silence parle de lui-même. Ces vigies ne démissionnent jamais. Si d'aucuns se couchent, c'est que la mort les a ravis. Même quand le soleil s'éteint et que le monde disparaît, reste la forêt inconsciente des pins. Extrait donc du carnet du bord, intitulé du recueil de Christina Ifoirson, qui est donc intégré à cette revue Voix d'encre, numéro 72, où sont rassemblées 8 poétesses, poètes. Enfin, 8 poètes, 8 poètes dont... j'ai tout féminisé. 8 poètes dont 1, 2, 3 poétesses.
Et tu nous lis un poème d'Alain, tu l'as...
Ah mais bien sûr.
Tu l'as annoncé.
Ah bah je ne sais pas, je n'osais lire un poème d'Alain. Où est-il ce cher Alain? Ah ben le voici. Toutes les branches s'élançaient vers le ciel dans un effort désespéré, loin de la chambre et du silence. La lumière devenait l'ultime rempart à l'oubli ou à l'inconstance. Elle était ce qui promet, comme un miroir lancé dans l'air, vif du matin, renvoyant les images, saisies de nos visages et de nos corps, dans l'espace décomposé. Cartable d'ombre portée chaque jour, à pas feutrés, le long des murs grossis de pierres blanches et de dédales, mystérieux jusqu'au bout du chemin. Seul signe aperçu et cru, comme on croit aux histoires, lu le soir à la montée des marches, là où vont les rêves s'étendre, pour un bref séjour parmi les morts. Ça fait la fermeture des lettres d'Angèle Paul.
Eh bien, on va écouter Les Goguettes à la retraite parce qu'on a invité Michèle Rollin, réalisatrice de Mémoire de l'histoire ouvrière, Le Métron. Et comme en ce moment, c'est vraiment la question sociale, voilà, dont tout le monde parle, on va écouter Les Goguettes. C'est une chanson de 2020.
Quand on pouvait, bon an, mal an, partir à l'âge de 60 ans, à la retraite, on mettait son plus beau costard pour faire honneur au pot de départ où l'on nous offrait par égal une épuisette. On pouvait partir en croisière, aller pêcher dans les rivières, truite et ablette. On en profitait pleinement avant de devenir impotent, grabataire et incontinent, arthrose, diabète. Aujourd'hui c'est moins folichon et l'on nous montre le bourrichon sur les retraites. D'après des experts avertis, certains sont beaucoup trop nantis et faut faire des économies. Fini la fête. On a été bien trop coulant de Léon Blum à Mitterrand. Ce qu'on était bête. On ignorait que le progrès, c'était de bosser sans arrêt. Qu'on n'était pas là pour se marrer. C'est la compète. On croyait même que le bonheur c'était de faire les 35 heures. Arrête Cosette. Sache que le travail c'est la santé, c'est pas de prendre des RTT. Et puis la pénibilité, c'est obsolète. Désormais votre seul avenir, c'est de turbiner sans mollir. Baissez la tête. Au lieu de mourir au champ d'honneur, clamez devant l'ordinateur. L'entreprise offrira des fleurs et adieu la retraite.
Voilà, les goguettes à la retraite. Bon, on va parler de mémoire d'histoire ouvrière, Michel. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir il y a un mois quand tu le présentais à la SCAM, le 23 mai. Hein. Alors, pour te présenter, moi, j'ai été chercher parce que finalement, je ne te connaissais pas tant que ça. Je connaissais tes documentaires, tes films, mais voilà. Alors, hormis que tu es... que tu es parisienne et que tu as fait tes études à Paris dans le 19e. Voilà. Tu as été monteuse, puis tu as réalisé des courts-métrages. Et depuis 30 années, j'ai l'impression, ça doit faire 30 années, tu te consacres entièrement à la réalisation de documentaires. Et tu as fait des documentaires sur le libertaire. Ça s'appelait Un siècle d'engagement à travers le journal Le Libertaire. Et il y avait trois documentaires. Donc, c'était entre 2003 et 2006. Tu as fait un documentaire sur Radio Libertaire, ça je m'en souviens. Radio Libertaire à 25 ans, de la Fondation à aujourd'hui. Et puis, tu as fait d'autres documentaires sur la Première Guerre mondiale autour de souvenirs, mais aussi sur Berlin, dont un que j'ai vu grâce à toi, parce que tu m'avais aussi invité, à la recherche du Berlin perdu, urbanisme et utopie. Et donc la partie utopie était fort intéressante. Hein. Et aujourd'hui, c'est Mémoire de l'histoire ouvrière avec le Métron. Alors, est-ce que tu peux me préciser la date? Parce que là, ça fait 50 ans que Jean Métron est décédé. On est en 2025, mais j'ai vu que sur le documentaire, c'était 2021.
Alors là, j'avais écrit sur les dates de copyright. En fait, j'ai commencé à écrire le film, c'était 2017,
oui.
Le temps de monter la production, les arrêts avec le Covid, notre producteur est décédé prématurément, et donc il est, oui, enfin 2021 ou 2022, le copyright.
Et donc, tu l'as à l'époque, tu l'as présenté où ce film?
Alors, ce film, en fait, il a été diffusé parce qu'on avait une diffusion, ce qui nous a permis de le faire avec Vosges Télé, auparavant Épinal TV, La Providence des films un peu particuliers, qui était vraiment avec Dominique Renaud, puis maintenant Rorimbert qui a pris la suite, qui était les grands défenseurs du documentaire, et qui est la télévision Grand Est. C'est pas France 3 Région, c'est la télévision Grand Est.
Ouais.
Donc, ça a été diffusé. Puis alors, c'est vrai qu'avec l'arrêt du confinement et tout, il n'a pas été tant que ça diffusé finalement.
Oui,
alors qu'on
oui.
s'attendait vraiment à ce que, bon, j'ai une projection au CNRS.
Mm-hmm.
Oh, puis je me suis dit, quand même, c'est trop bête. Voilà. On s'est arrêté, il faut quand même le.
Donc, tu as décidé de le présenter en présence du petit-fils de Jean Métron, hein, qui lui aussi travaille au CNRS.
Lui-même le président
voilà,
du CNRS.
Voilà, le président, c'est pas rien, hein, un grand monsieur. Voilà. Qui était présent et c'était d'ailleurs très émouvant.
Ah, j'ai trouvé aussi
très très émouvant que ce grand, parce que c'est un grand monsieur en taille, hein, mais c'est un grand monsieur aussi dans ses responsabilités, qui parlait de lui quand il était enfant avec son grand-père. Et c'est vrai que devant cette salle qui était remplie essentiellement d'historiens, je crois.
Voilà,
il y avait les incongrus qui étaient là, mais sinon c'était quand même des historiens. C'était étonnant parce que ce qu'on a compris, c'est que Jean Métron travaillait sans arrêt. Donc comment il avait le temps de s'occuper de ses petits enfants? Eh bien, le petit-fils qui était là nous a dit oui, quand je venais chez mes grands-parents, eh bien, mon grand-père s'occupait de nous. Voilà. Voilà, il y avait un peu un décalage, parce que dans le film, tout le monde dit qu'il travaillait énormément. Tout le monde, hein, il passait son temps à travailler. Hein. Voilà. Donc, alors, parle-nous un petit peu de Jean Métron, puisque tu as fait ce documentaire qui dure
1h05.
Voilà. Alors, il était instituteur au départ.
Oui, alors en fait, au départ, Métron est fils instituteur, me semble-t-il. Il fait ses études, comme beaucoup d'ailleurs, il fait les classes préparatoires, il monte à Paris, il est en internat, il est très malheureux en internat, mais enfin bon, il est quand même un très brillant sujet. Et en fait, il aurait la possibilité de passer enfin, le CAPES sur l'agrégation, mais il a déjà des enfants, et justement, puisque tu parlais de ses petits-enfants, bah, non, il ne veut pas risquer qu'ils soient mis en internat eux aussi. Donc, il préfère s'orienter pour être instituteur. Et il semble qu'il a, avec sa femme d'ailleurs, qui était institutrice aussi, qu'il était un excellent instituteur. Et puis, il fait ses études, il continue à faire ses études. Il ne passe pas l'agrégation, d'ailleurs, son grand-père nous l'a rappelé, ce qui était son drame. Enfin, il fait son doctorat, etc. Et il va finir par devenir chercheur et historien de référence. Alors, parallèlement, ça, c'est quelqu'un d'engagé. Il va s'engager au Parti communiste, puis il va un peu le quitter. Il va, certains, dont mon père l'a fait aussi, aller en Union soviétique pour voir comment c'est. Il n'est pas particulièrement convaincu que ce soit le paradis des travailleurs. Il y a quand même des choses qui le gênent, mais il se tait. Mais comme beaucoup d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile non plus, parce qu'il y avait une telle haine, une telle propagande à l'époque, donc il sait pas trop. Il s'engage un peu avec les trotskistes, il va revenir avec les communistes, puis là, crac, boum, c'est le pacte de non-agression sur la soviétique. Et alors, pour lui, c'est la cassure dans sa vie. Il faut voir aussi ce que c'était quand même, enfin, sous le parti communiste, sur l'antifasciste, etc. Et là, la signature, il est complètement démoli. Et il va se mettre en retrait, peut-être d'ailleurs que c'est finalement, c'est peut-être s'aventurer très loin et faire des hypothèses un peu tendancieuses, mais il va du coup devenir vraiment historien avec peut-être plus de recul, et il vient s'intéresser au mouvement anarchiste. Et sa thèse, son doctorat, qui est d'ailleurs en fait maintenant il y a évidemment d'autres œuvres, mais une thèse de référence, c'est sur l'anarchiste, c'est vraiment le Métron des anarchistes. Et puis il va pas faire que cette thèse, il va faire beaucoup d'ouvrages de référence sur des anarchistes. Il y a un ouvrage de Ravachol, il y a sur Delassalle, etc. Et puis, il va avoir, donc ça c'est après-guerre, cette idée, bon, il finit par, il n'est plus instituteur, il est détaché à l'université, puis après, bon, je saute un peu les étapes, mais sur le CNRS, il veut faire une phrase de référence sur l'histoire sociale, et il va avoir cette idée de faire le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, c'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, le Wussou des obscurs, des sans-grades, des acteurs du mouvement ouvrier, aussi bien connus qu'inconnus. Et en ce sens, il est, à cette époque-là, très novateur, parce que vous ne voulez pas. Bon, il est défendu par certaines personnes, mais les gens ne comprennent pas très bien pourquoi parler de gens qui ne sont pas connus du tout, ça va où, c'est comment. Mais il finit par trouver un éditeur, qui était les films de l'atelier, qui était qui éditait beaucoup de choses des chrétiens sociaux, des syndicats chrétiens, un peu, je crois que c'est la CFTC. Peut-être pas la CFTC, mais enfin bon, ils étaient dans cette mouvance sociale, et parce qu'ils ne voulaient pas s'engager trouve avec, dans une maison d'édition qui serait proche d'un parti, voulait garder son indépendance. Mmh. Et c'était quand même un truc de fou furieux, hein, de dire on se lance par souscription. Bon, d'accord, il avait quand même ce côté qu'il était chercheur à la Sorbonne, puis après au CNRS. Mais enfin bon, d'éviter ça sur papier à l'époque, et l'atelier s'est lancé. Et c'est une œuvre qui a duré jusqu'à sa mort.
Jusqu'en 75.
Exactement.
Voilà. Donc ça fait 50 ans qu'il est mort.
Oui.
Hein. On parle toujours du Métron. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu viens, parce que toi, tu as fait un documentaire, mais tu as fait un documentaire sur sa vie, bien sûr, mais sur le Métron, il existe toujours.
C'est ça qui est beau.
Et c'est ça qu'on va évoquer au cours de l'émission. Donc voilà, on a réglé le problème de la date, parce que ça, vraiment, ça m'avait un peu perturbée. Et du coup, j'ai compris que ça t'avait pris 4-5 ans quand même pour faire ce documentaire.
Ah oui, ça prend du temps déjà, l'écriture et tout.
Mais comment, toi, t'as eu l'idée de le faire?
Ben, en fait, alors, comment est-ce que j'ai eu l'idée de le faire? Bon, le Métron, j'en avais entendu parler. Bon, d'abord, j'avais lu les ouvrages de référence anarchiste. D'ailleurs, il m'avait un peu taquiné. J'étais à la Publico en demandant le Métron. Et Laurent qui avait ouvert des yeux comme ça. Mais Michel, enfin, le Métron, c'est l'encyclopédie Larousse. Parce que quelqu'un m'avait dit, tu ne comprendras rien à l'anarchiste, tu ne lis pas le Métron. Donc, j'allais demander le Métron. Ouais. Et je n'avais pas compris qu'il y avait le Métron, l'ouvrage sur l'anarchisme.
Histoire de l'anarchisme, voilà, d'un côté. L'encyclopédie.
C'est comme de demander Larousse et encore. Ouais. Quoi. Enfin, l'encyclopédie Larousse pour le lire. Donc bon, je savais que c'était ce que c'était. J'en ai entendu parler il y a longtemps. Déjà quand je faisais ce film sur les mémoires des femmes, de femmes qui étaient enfants pendant la guerre de 14 et qui sont devenues pacifistes, je cherchais désespérément, parce que j'avais une ouverture de ce côté-là, des témoins de l'époque alsacienne, et le producteur qui était Jean-Paul Guimard m'avait dit, écoute, il faut que tu appelles les gens du Métron. J'étais tombée sur Claude Penfield qui m'a dit, c'est pas la peine, elles sont toutes mortes. Voilà, on connaît, on cherche, vous y prenez trop tard, ou trop tôt, enfin, puisque vous voulez les gens de la guerre de 14, c'est pas la peine. Ou alors, si vous en trouvez, ça nous intéresse.
Ben, c'était 100 ans après. Donc, il y avait de fortes chances qu'elles étaient mortes depuis déjà un petit paquet de temps.
Oui, mais... J'en ai trouvé d'autres dans d'autres endroits. Il y a une espèce de côté de génération, c'est des gens plus âgés aussi. Ça, il y a quand même des trous noirs et des trucs vraiment très durs là-bas. Enfin bon, c'était comme ça. Donc c'est là j'en ai entendu parler. Et puis, c'est Bernard Bessa. Il faut parler de Bernard Bessa.
Ah bah oui.
Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu lui qui est à l'initiative. Oui. Puisque un jour, il m'appelle. On se connaissait des productions de La Lanterne. Qui a fait aussi pas mal qu'on produit mes films sur l'anarchisme, qui sont bien connus. Maintenant, ils n'existent plus. Mais pour avoir fait toutes sortes de choses de ce genre-là. Et Bernard Bessa qui m'appelle, qui dit, de toute façon, là, je ne peux pas le faire. Puis là, il est temps que je passe la main. Il y a le dictionnaire des fusillés, c'est le Métron, cette thématique. Et ils ont fait un colloque, est-ce que tu ne pourrais pas aller le filmer? C'est comme ça que j'ai rencontré, de visu, puisque j'avais au téléphone, Claude Pelletier. Et puis, je l'aurais filmé le dictionnaire des fusillés, leur colloque sur le dictionnaire des fusillés. Puis après, il m'a invité aux journées du Métron. Bref, enfin, j'ai filmé un peu Mesdemoiselles d'Écureuil, et puis c'est vrai que Claude me dit quand même, il faudra faire quelque chose, c'est dommage, parce que bon, j'archivais, je leur mettais sur internet sur YouTube, c'est vrai que ce serait dommage, puis c'est vrai que j'avais filmé sur pas mal de temps, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai fait l'interview de fin avec lui, parce que disons, on sait jamais, je suis encore bon pied bon oeil, vous voyez pas vu, mais enfin quand même. Donc j'avais fait cette interview, puis les lanternes n'existaient plus, mais il y avait des gens qui avaient succédé, donc Kibou Productions, Jean-Philippe Raymond qui était encore en vie, et qui disent, en fait, ce serait bien de faire, je sais pas si tu connais le Métron, il dit, bien si, je connais très bien, d'ailleurs, je regrette que mon grand-père n'y soit pas, et de faire un film sur le dictionnaire, il me dit, mais attends, c'est absolument infaisable, c'est impossible, donc c'est pour nous. Je fais pas les choses comme ça, donc vraiment, ce qu'on vous dit, je vais faire un film sur un dictionnaire, enfin bon, c'est pas évident. Et donc, j'ai écrit le projet, et puis après, faut le monter, etc.
Bien sûr.
J'en profite pour dire que Bernard Bessa m'a donné ses archives.
On voit Picra en train de vendre le réfractaire. En particulier,
Et donc, c'est après, c'est beaucoup de travail de comment Et le plus drôle c'était de l'affaire, c'est qu'on a failli pas le trouver, le métro.
Le réfractaire, c'était le journal des gens qui refusaient le service militaire. D'accord. C'était Louis Lecoin, Aimé Picret, enfin voilà. Et ça a été un mouvement extrêmement important politiquement, en nombre. Bon, c'est toujours des militants, hein, oui. mais politiquement, ça a été important puisque ça a permis que l'État français autorise un jour que des gens refusent le service militaire. Hein, voilà. D'accord. Donc ça, c'est on voit Aimé Picret qui est dans la rue en train de vendre le réfractaire et comme c'est un personnage, alors là, physiquement, qu'on reconnaît très très bien, on sait tout de suite qu'il n'y a pas besoin de mettre Aimé Picret en dessous, on sait que c'est Aimé Picret. Mais ceci dit, tu as mis le nom de tous les,
oui.
de tous les personnes qu'on... militants et historiens et etc. T'as à chaque fois mis le nom et ça c'est bien parce que quand on regarde un documentaire puis qu'on voit quelqu'un puis qu'il faut attendre à la fin pour savoir qui c'est, ben là au moins le sait.
J'ai, quand j'étais plus jeune, quand on avait premier truc, je voulais pas mettre le sous-titre parce que ça gâchait l'image. Et après quelques réflexions qu'on m'a faites, je mets les.
Ah ben ouais.
Surtout en plus pour le métro, si on met pas le nom des militants, ce serait quand même un comble.
Alors on va écouter Michel Bernard, fille d'ouvrier.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail, du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit. Et plus bas ça glisse un beau matin, ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte ça travaille dans sa maison, alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, pas d'héliogabale, d'effroi saisi, quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à macar.
On vient d'écouter Michel Bernard, fille d'ouvrier, une belle interprétation. Et comme on parle de mémoire de l'histoire ouvrière, je me suis dit, on ne peut pas ne pas mettre Michel Bernard. Alors, je craignais, Michel Rollin, je craignais de voir peu de femmes dans ton documentaire. Parce que le mouvement ouvrier sur la période historique concernée, là, jusqu'en 75 pour ce documentaire, mais on va dire jusqu'en 81 pour les notices, c'est quand même une forte connotation masculine. Voilà. Mais on y voit, et là, merci, on y voit Michel Perrault. Et là, c'est un vrai bonheur. Elle a 97 ans aujourd'hui, Michel Perrault.
J'ai à l'époque, alors là, c'est vraiment ça, c'est ce que j'avais filmé moi, c'était l'anniversaire justement de la fondation du Métron, ouais. Les journées Métron. Donc ouais. Ça fait déjà. C'est pas quand j'ai tourné le documentaire avec Maxime, j'avais le caméraman, ça c'est moi qui l'ai fait, ouais. À Sorbonne. Ah oui, il a déjà 97 ans.
97 ans, Michel Perrault. Je l'ai vu encore récemment pour. Une journée sur Margaret Marwani qui est décédée il n'y a pas longtemps, et elle était à la tribune, et vraiment elle est sublime, quoi, dans tout ce qu'elle peut dire, quoi. Et elle avait commencé sa carrière sur les ouvriers et les ouvrières, hein, sur, voilà. Après elle est passée au féminisme, bon, mais voilà. Donc on y voit Marianne Henkel.
Oui,
voilà, oui. Bah, c'était indispensable.
Ah, bah oui, ça va, oui, elle sort tout. En plus elle était vraiment à l'origine, oui. Elle est vraiment grande collaboratrice du Métron,
oui, directeur, oui. Marianne Henkel, pour les auditrices et auditeurs, elle s'occupe du CIRA de Genève, hein, et elle s'en occupe depuis je sais pas combien d'années.
Voilà.
Mais le plus grand CIRA, c'est quand même Genève, et grâce à Marianne, et puis évidemment avec tous les gens avec qui elle est là-bas. Alors, une que tu as mis aussi en valeur, et ça m'a fait très plaisir, c'est Barbara Bonazzi, qui elle nous explique bien comment une notice d'un individu doit être rédigée, et comment elle est un peu la garante que ça soit rédigé, alors au passé, hein, voilà, que ça soit rédigé avec d'abord la partie, on va dire, familiale, enfin, avant d'aborder la partie militante, hein. Et tu l'as pas mal interviewée, Barbara Bonazzi.
Oui, parce que c'est elle qui fait, enfin, tout le travail, parce que c'est énorme, le Métron. Faut voir qu'il y a, enfin, c'est pas une seule personne, c'est tous les collaborateurs, ouais. Qui peuvent être des gens. Il peut y avoir des gens qui sont, par exemple, à la commission histoire des syndicats. Il y a beaucoup d'enseignants, aussi d'enseignants retraités qui vont qui vont s'engager là-dedans. Mais il peut aussi y avoir des gens qui vont envoyer parce que c'est quelqu'un de leur famille, etc. Donc il faut harmoniser tout ça. Bon, quand on a quelqu'un comme le Marquis, qui était lui-même professeur de haut niveau, qui fait rédiger une notice, et encore pas forcément, parce qu'il est prof de philo, faut bien dire, bon, bah oui, effectivement, l'histoire s'est passée, donc c'est peut-être qu'il vérifie, enfin, qu'il vérifie, parce que maintenant ça peut changer, mais qu'il vérifie les sources. Oui. Il est très important aussi, là, oui, sur l'état civil.
Oui.
Oui, les gens, pas forcément, enfin bon, ceux qui ont l'habitude de le faire, mais quelqu'un qui va envoyer une notice pour la première fois, va pas forcément savoir que, ben, voilà comment on fait pour vérifier sur l'état civil, la naissance, les parents, etc. Et donc, enfin, en plus, c'est le moment où le Métron va se mettre sur Internet,
oui, hein,
ce qui change tout. Puisqu'avant, c'était, voilà, il y a un tome, c'est sur papier. Bon, alors, là maintenant que c'est, enfin, que c'était sur Internet, puisque là c'est un peu changé, mais on peut aussi rectifier. Alors qu'avant, il fallait tout réimprimer.
Ouais.
Et donc, je pense que c'est fait important, et puis de l'entendre, d'autant plus que j'ai tellement vu participer à toutes ces, toutes ces journées Métron, toutes ces. Parce qu'il y a ça aussi, il y avait un côté très convivial, très. Très mouvement ouvrier, avec banque ouvrier, chaleur, etc. Et culture populaire, mon succès.
Et il y a aussi Françoise Olivier Hutard, qui est elle, professeure à Strasbourg. Hein. Voilà. Moi, j'ai repéré ces quatre femmes-là.
Oui, j'aurais aimé d'ailleurs les mettre plus longtemps, mais bon, on ne peut pas tout mettre dans un film, c'est toujours pareil.
Et alors, celui qui ouvre le film et puis qui est le fil conducteur, c'est Claude Pelletier.
Voilà, on parle du Métron, mais on devrait dire quand même, et lui, il est beaucoup trop, il est tellement, c'est le Métron, qu'il a tellement connu Jean Métron, on devrait dire le Métron Pelletier, parce que quand même, lui, c'est 50 ans d'engagement.
Oui.
Il a connu Métron, il a été... Il a voulu le voir, il a travaillé avec avec lui, c'est lui qui a pris, bah oui, la succession, qui était... Ouais. Et donc, c'est 50 ans d'engagement, et à la fois, bon, bah, comme le directeur de recherche qu'il était maintenant à la retraite, mon CNRS, comme le président de l'AMI Lumetron, c'est toute une histoire, parce que c'est ça qui permet aussi qu'il y ait une synergie et que les gens, ce soit finalement un dictionnaire participatif avec beaucoup d'exigences scientifiques. Enfin, bon, qui a fait ça pendant... quand on y réfléchit bien, c'est même presque plus long.
Bien sûr. Oui, parce que Jean Mettron, il a démarré en 1955, même s'il avait le projet qu'il a fallu monter avant. Mais 1955, et comme il est mort en 1975, ça fait 20 ans. Voilà. Hein. Alors que Claude Pelletier l'a connu vivant.
Oui.
Et moi, je sais que on a eu besoin de vérifier. Bah, je pense que c'est quand j'ai écrit mon article sur les femmes pendant la Commune, et j'avais besoin de vérifier quelques trucs. Et à l'époque, le Mettron en ligne n'était pas accessible.
Ah,
maintenant, il l'est, mais il l'était pas. Donc, il avait fallu que je demande à Claude Pelletier qu'il me fournisse les notices dont j'avais besoin. Et donc, c'était... on était en 2020. Et,
oui, hein, absolument. Il n'y avait pas que ce livre à l'époque.
Voilà.
Absolument.
Ouais. Et c'est lui qui m'avait répondu. Hein. Voilà, ouais. Il n'y avait pas eu de problème pour me répondre. Il savait ce que j'allais faire. Voilà. Il y a un autre... personnage aussi qui a une certaine place, c'est Paul Boulan.
Oui, ben, Paul Boulan qui a été, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, assistant, continuateur de Claude Pelletier, et qui... parce que finalement, il y a les métamorphoses du Mettron.
Oui.
Le Mettron papier, le Mettron qui va être sur CD, puisque finalement, Claude Pelletier est à la fois fidèle à Jean Mettron, mais bien de son époque. Donc, surtout quoi, enfin, aujourd'hui, on, tient, bon, on trouvait ça formidable que ce soit sur CD, que maintenant on est habitué.
Ouais.
Et puis, qui va aussi, lui, c'est la génération, ça va passer sur Internet.
Oui, oui. Alors, en termes de Mettron, encyclopédie du Mettron, ça fait combien de volumes? Parce que tu les montres dans ton film au fur et à mesure, c'est aussi c'est joli d'ailleurs, hein, cette présentation qui fait le passage d'une période à une autre, comme ça, tu montres, il y en a au moins 12 au niveau encyclopédie, hein,
oui.
Mais il y a énormément d'ouvrages thématiques.
Ah oui,
voilà.
Parce que, hein, justement, à un moment, il passe là-dessus, parce que bon, c'est vrai que le Mettron, c'est... bon, ce qui est formidable, c'est qu'on regarde un nom, on a envie d'y aller dans un autre nom,
oui.
Mais bon, c'est énorme. Effectivement, c'est aussi une base de travail pour faire des thématiques. Il y a d'ailleurs le dictionnaire thématique du mouvement anarchiste.
Oui.
Il n'y a pas que ça, il y a aussi, enfin, beaucoup de thématiques
qui
permettent aussi en plus de...
Il y a eu un numéro spécial sur la Commune de Paris,
oui,
de 1871.
Oui.
Et puis par métier, les cheminots, les correcteurs, etc. Oui. Et les régions aussi.
Aussi.
Oui.
Et c'est aussi une façon de se repérer et de continuer à le faire vivre. Et de... Non, je trouve que c'est très bien. Et puis les fusillés aussi.
Oui, les fusillés, bien sûr. Et là, tout à l'heure, quand on parlait de Barbara Bonazzi, elle dit, je crois que c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais qui dit ce qui est important aussi, c'est que d'un militant ou d'une militante, il n'est pas tout seul dans son jus, il milite avec d'autres gens, et que du coup la notice renvoie à d'autres notices, parce que bah, il a connu un tel de telle période à telle période, et du coup paf, maintenant que c'est par internet, enfin que c'est numérique, on clique dessus et on arrive sur l'autre notice.
Ah voilà. Oui, ça c'est formidable. Non. Ça c'est aussi, j'avais oublié, c'est le travail qu'elle fait aussi. C'est tout un travail par vos clés.
Oui.
Aussi, où on peut ressortir des gens et on trouve des itinéraires auxquels on ne penserait pas forcément.
Alors, Les contributeurs, tu nous en montres un certain nombre parce que il y a une réunion des amis du Métron, mais il y a énormément de contributeurs.
Ah oui, j'ai plus le nombre en tête, mais c'est énorme. C'est
ouais. Alors moi-même, j'ai contribué à plusieurs notices, hein, mais je me suis arrêtée parce que moi, j'ai été sur des notices de gens qui ont milité avant 1981. Hein, voilà, j'ai arrêté parce que voilà, j'ai fait autre chose et puis on m'a pas trop sollicité, mais j'en ai fait plusieurs et autour de moi il y a des gens qui ont fait aussi plusieurs, mais et on fait pas partie des enfin, je me considère pas comme contributrice au même titre que tous ceux qui sont historiens et vérifient extrêmement leurs sources et vont chercher des gens mais hyper inconnus. Moi, c'est que des gens que j'ai avec qui j'ai milité. Donc, c'est beaucoup plus simple.
Je pense qu'il y a vraiment toutes sortes de niveaux de participation.
Oui, oui.
Il y a des gens qui vont vraiment s'investir et faire des notices. Donc, je pense à ceux qui font partie des commissions histoire, d'un syndicat, d'un parti, ou qui sont eux-mêmes universitaires qui vont s'investir là-dessus. Des gens aussi à l'occasion qui font le larron. Ça peut être des gens, ben oui, c'est quelqu'un de ma famille, et j'aimerais bien qu'on en parle. Donc, il y a aussi, je pense, différents niveaux d'exigence et de possibilités. C'est là où, justement, c'est peut-être très intéressant que, ben, il y ait des gens qui harmonisent tout ça pour que les sources soient égales.
Oui. Et alors, on parlait de Bernard Bessa tout à l'heure. Les extraits de films que tu montres rendent ce documentaire très fluide parce que je crois que les auditrices et auditeurs doivent se poser la question comment on fait un documentaire sur X bouquins parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais ces bouquins là avec les individus qui sont dans ces bouquins, ce sont des gens qui sont inscrits socialement. Et donc, il y a des images, que ce soit des grèves, que ce soit mai 68, que ce soit... bon, on a parlé de Mépicret qui vend le réfractaire. Voilà, il y a des images que Bernard Bessa t'a légué. Là,
alors, il y a Bernard Bessa.
Oui.
Bon, il y a toute cette interview donc, avec ce peintre, Mépicret, enfin oui. Ça c'est Bernard Bessa. Il y a aussi Synarchive,
oui.
Qui était ex-Zoubabel, ex-les archives, enfin, maison indépendante et du Parti communiste, mais qui ont toutes les archives dans les années 30 aussi, qui étaient des collectifs. On a aussi le film de Jean Renoir, et qui sont. Enfin bon, maintenant, elles commencent à être connues, ces archives. Moi, je les connais depuis longtemps. Donc, qui donnent aussi un petit côté inédit. Et puis bah il y a aussi les quelques archives de la télévision. C'est drôle de voir quand même
Jean Métron à la télévision en train d'être interviewé.
Oui,
voilà, et c'est là qu'on voit le personnage qui était mince, qui se tenait très droit, qui
accrochait son public.
Oui,
il a des yeux.
Oui.
Absolument,
ouais.
Incroyable, vraiment une sacrée présence.
Mais tu as monté ton film avec des interviews, avec des extraits de films, avec des images des lieux où les gens travaillent aussi, travaillent, se réunissent. Voilà. Et tout ça, c'est extrêmement fluide. Hein, oui. Bon, eh ben on va faire encore une petite pause avec Amel Bent, Décharge mentale.
Minuit, une, je sors de mon lit, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Au clair de lune, je cherche la rime et demain me donne le vertige. Moi j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Rappeler la banque pour la maison, changer les rideaux du salon, gonfler les pneus de mon vélo. Il faut que je devienne écolo, aller voir mamie à l'hosto. Le tant l'a rendu moins costaude. Dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine et merde, y'a plus de liquide vaisselle. Signer les carnets de liaison, acheter des légumes de saison, me réconcilier avec maman même si c'est pas elle qui a raison. Putain, je vois plus aucun ami, une tournée ça laisse du vide. Et puis faut que j'aille voir un médecin, moi j'ai peur du cancer du sein. Y'a des trucs, pourquoi je les garde comme des souvenirs que j'entasse. J'ai des factures de 2004, faut que je fasse un tri dans ma paperasse et faire ma couleur rapidement, on voit trop mes cheveux blancs. Hier encore j'avais 20 ans et demain déjà 40 ans. J'aimerais quelqu'un qui parle et qui sache écouter sans me juger. C'est vrai, je travaille pas à l'usine mais parfois je suis épuisée. Puis faut pas que j'arrête de chanter, sinon ma voix va décoter. Et comme parfois par le passé me remettre en difficulté. Et je voudrais apprendre le piano, la guitare ou le cello. Moi je veux m'accompagner solo quand mon équipe n'est pas dispo. Dire à ma fille que je suis cruelle, d'être plus exigeante avec elle. Dire au petit de la comprendre, c'est pas facile d'être la grande. Et je gueule trop quand je suis stressée, mes mômes n'ont rien demandé. Je veux pas reproduire ce que j'ai vécu, aussi maman si j'avais su. 7h10, je suis dans mon lit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est déjà l'heure du biberon, j'ai pas écrit ma chanson.
Voilà, alors c'était Amel Bent, Décharge mentale. J'ai choisi cette chanson pour montrer aussi qu'il y a des femmes ouvrières, qu'il y a des femmes qui travaillent, même si elle, elle n'est pas ouvrière, ni... Bon, mais enfin, elle travaille. Et que entre le travail, les enfants, le transport et tout, eh bien, il y a une charge mentale qui est extrêmement lourde. Et qui n'apparaît dans les écrits que parce que des femmes en parlent. Voilà, et que ça, c'est les hommes et même les syndicalistes n'en parlent pas beaucoup. Voilà, c'était pour ça, pour ne pas oublier les femmes. Puisqu'on est dans une émission féministe, donc Femmes Libres sur Radio Libertaire. Alors, Michel, pour ton film Mémoire de l'histoire ouvrière, Le Métron, il y a Edwy Plenel aussi qui dit des choses très intéressantes, hein, j'ai trouvé, parce que il répond finalement à la demande d'ouvrir le Métron à tout le monde, hein, c'est ça qu'il nous dit.
Oui, absolument, hein. Il le popularise, parce que bon, c'est vrai que si on ne connaît pas le Métron, c'est bon, c'est une encyclopédie. Ouais. Et il raconte une histoire, enfin, en se fondant sur le Métron, en choisissant les notices, en faisant un itinéraire. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est... Bon, il y a les thématiques, comme ils font eux, les fusillés, mais là, c'est un itinéraire, finalement, par rapport au lieu, et c'est chronologique. Ouais. Où il boucle, donc il part de Paris, hein, c'est le coup d'État... du futur Napoléon III, mais puis il prend des notices, il fait toute une espèce de cheminement géographique, il raconte finalement une histoire, et ils en ont même fait une pièce de théâtre. Ce qui est assez, que j'avais tourné d'ailleurs, et ce qui est assez beau, c'est que en région, ils reprennent ce canevas finalement de faire une pièce de théâtre, et ils vont l'adapter avec la région. Ils le font en Normandie, où ça va être des militants. Enfin, il va y avoir les principaux, ils reprennent les grandes lignes, mais les militants normands, etc. etc. Ouais. Donc, c'est une façon de faire vivre le Métron que j'ai trouvé vraiment intéressante aussi.
Oui, oui. Et alors, ce qu'il a écrit, lui, ça s'appelle Voyage en Terre d'Espoir.
Voilà.
Et donc, c'est aussi un beau titre, quoi. C'est un voyage, mais il y a le mot espoir. Et c'est ça, c'est bien. C'est... Voilà, ça permet, dans ce qu'il dit lui, hein, ça permet de reprendre des personnages qui étaient à telle ou telle période et de les faire revivre. De les faire revivre aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est... Non, c'est... Et puis, le montage théâtral, c'est très bien d'avoir pu faire des images aussi là-dessus, hein. Bon, on a parlé de l'histoire du métro, mais on va le redire d'une façon très claire. C'était d'abord du papier, donc des livres.
Voilà.
Après, c'était du papier plus CD-ROM. Voilà. Et aujourd'hui, c'est du papier et du numérique.
Voilà.
Voilà. Et le numérique ouvert à tout le monde. Et ça, c'est super. C'est de 2021 2022 qu'ils ont dû l'ouvrir.
Oui, c'est entre, parce que j'étais en train de... J'étais au... Parce que moi, on m'avait donné l'accès pour que je fasse le film, mais au moment où c'était ouvert, c'est dans ces eaux-là. Oui,
oui,
absolument.
Oui, oui. Avant, c'était pas possible. Et là, maintenant que c'est ouvert, mais c'est une mine d'or, quoi. C'est vraiment une mine d'or. On peut tout est rangé évidemment avec une possibilité de les retrouver par ordre alphabétique. Ça paraît évident, mais on peut retrouver des femmes, on peut retrouver des régions, on peut retrouver des ouvriers, voilà. Il y a tout est possible. Tout
oui,
est
hein, possible. C'est formidable.
Alors diverses publications. Ben, on en a déjà parlé, mais on y revient. La Commune de Paris, 1871. Ça a été sorti en 2021.
Et je suis très fière d'avoir des archives de Daniel Guérin sur la commune, dans le film, avec les vieux communards qui sont, dont il y a la notice dans le métro, et qui sont les derniers qui sont en vie, qui n'ont pas été assassinés. Ouais.
Et ce livre-là qu'on vend à la librairie Publico, 145 rue Amelot, moi je l'ai acheté. C'est un livre qui coûte quand même assez cher, mais je l'ai acheté parce que c'est une mine d'or aussi sur la commune de Paris. C'est que des historiens qui ont écrit, et puis pointu.
Oui, voilà.
Donc, j'avais envie d'y revenir. Bon, alors après, sur les cheminots, sur les espaces régionaux, comme le Maghreb,
oui, et ça aussi, oui, parce que c'est une dimension internationale.
Oui.
C'est des élus, là.
Et ça, c'est extrêmement aussi intéressant de voir qu'il y a non seulement des publications numériques, mais papier. On peut acheter des livres sur le métro versus le Maghreb. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as autre chose à nous dire sur... Comment t'as travaillé?
Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, on a parlé des archives, mais je pourrais dire que j'ai mes propres archives aussi, puisque j'ai filmé au fur et à mesure, et j'en utilise certaines. Et puis après, là j'avais un caméraman très talentueux, mais donc il y a aussi une dimension personnelle, même si elle n'est pas mise en avant. Mais c'est aussi parce que, parfois, c'est finalement juste une minute ou quoi, mais puisque quand même, ça avait commencé en 2015, donc c'est quand même c'est assez certain temps, et c'est ça que je voulais dire. Sinon, oui, c'est sur la manière aussi d'avoir choisi certaines notices, où j'ai essayé de prendre à la fois des gens qui n'étaient pas connus, mais aussi qui pouvaient parler par exemple Jean-Baptiste Rouen, ça sent pas ce que ce soit, c'est le fameux, celui qui a reconnu Louis XVI à Varennes, et qui est très intéressant. On s'attend pas, donc j'ai pris aussi des gens comme ça, qui parlaient au collectif, parce qu'on peut pas dire toutes les notices.
Bien sûr.
Et puis aussi des gens, moi j'étais très émue de me dire, tiens, j'ai la notice du métro, et je vois ces vieux communards qui viennent tourner, dans leur vieillesse, dans le film de Guérin sur la commune, alors qu'ils ont participé à la commune et qu'ils ont été déportés. Il y en a un qui a fait les dorures des statues de la danse à l'Opéra de Paris, parce que c'était un artisan d'art. Donc,
Quand vous disiez toutes les deux que le métro, il était ouvert maintenant, c'est d'un point de vue numérique, parce que moi, par exemple, je ne connais pas très bien, mais je connais que le métro sur le net. C'est pas de celui-là dont vous parlez. C'est celui-là. C'est d'accord. Celui-là.
Mais avant le net, par définition, il n'était pas sur le net.
Oui, d'accord.
En 1955, c'était le papier.
Oui, on est bien d'accord. Mais donc là, l'accès libre dont vous parlez tout à l'heure, c'est celui sur. On n'a pas physiquement à aller se déplacer, comme par exemple à la BNF.
Pour les notices. Mais ça n'empêche qu'il reste des publications papier sur des thématiques particulières. Voilà. Et qui et qui ont un intérêt, quoi, que ça soit rassemblé. Parce que les notices, il y en a des centaines de mille.
Oui, ben j'imagine.
Voilà. Si on veut traiter d'un sujet comme la commune, je pense, hein, la commune ou le Maghreb, c'est bien de rassembler et non seulement de parler des notices, mais de rajouter de l'histoire, parce que c'est des historiens qui font tout ça, hein, de rajouter de l'histoire. Voilà. Et donc, en particulier sur la commune, on a des encarts avec des thématiques très particulières, quoi. Il y a l'histoire, il y a des notices plutôt réduites, et puis il y a des encarts sur des aspects, sur une journée particulière. Il y avait machin qui a fait ça avec un tel. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est la matrice, le métron. C'est une matrice.
Oui, exactement. Oui.
Et à partir de là, les mêmes, enfin surtout les historiens, vont en tirer des lignes fortes pour faire un ouvrage.
Puis j'imagine de toute façon que pour que ça arrive sur le net, que ça devienne accessible, il a fallu tout numériser, scanner, et que ça aussi c'est un immense travail, l'air de rien.
Ouais.
Ça, ça a été fait avec le CNRS.
C'est le CNRS, ok.
Ah, parce que là, c'est...
C'est assez... Oui, c'est un gros boulot, l'air de rien.
Et maintenant, toutes les notices, évidemment, depuis, on va dire, 25 ans, se font sur un plan numérique. On les envoie par voie numérique maintenant. Mais avant, c'était effectivement papier, ouais.
Et pour l'anecdote, parce que moi, je voulais te faire remarquer, qu'on mettait le métron plus gros qu'il fait. Et en fait, on était allé toutes nos archives de la main, parce qu'on voulait vraiment le filmer sur la fin, enfin en entier. Ouais. Et en fait, bon, je sais pas si ça se rend, on n'a jamais pu le faire parce qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas bon, la place. La pièce est quand même plus grande que le studio de Radio Libertaire. Ouais. Et ben non, il tenait pas, mais j'ai obligé de tricher.
Ouais. Moi, j'ai dit 12, mais j'ai dit des grosses bêtises. Voilà, tu sais plus, et moi, je sais pas.
J'aurais dû les mesurer en mètres.
En mètres linéaires. Alors, on va terminer avec quelque chose que j'ai, avec des phrases que j'ai retenues, moi. Alors, c'est une forêt vivante qu'on visite, le métron. C'est une forêt vivante. Il y a plein de peuples, enfin, il y a plein d'individus qui forment peuple. Il y a plein de peuples aussi. Voilà. Et ben, on se balade à l'intérieur, on visite. Hein. Je crois que c'est Plenel qui dit « On s'y plonge et cela ragaillardit dans la période. » Alors, moi, j'ai pris comme ça, terrible, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ça ne fait rien. Ça, c'est le mot « ragaillardit » qui dit. Et il termine, Plenel, en disant « dans la période terrible que nous vivons, pour penser avec le monde. » Et c'est une très belle pensée, ça. Arriver à prendre un individu avec son état civil, sa militance, les gens avec qui il a milité, son travail aussi, enfin, et tout ça, et de le mettre avec d'autres gens, eh bien, ça nous donne idée que c'est un monde... peut-être inconnu des puissants, mais c'est un monde de milliards d'individus, quoi.
Une clé de fourmis,
voilà,
qui œuvrent dans l'ombre, mais qui sont là.
Et qui ont toujours, d'une manière ou d'une autre, été internationalistes. Et ceux qui font les notices... On cette dimension-là, je trouve.
Ah bah oui, ce sont des gens qui...
Le monde ouvrier, il est international. Il n'y a pas de frontières. On le sait bien, parce que s'il y avait des frontières, on aurait eu moins d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais, de Polonais, de Maghrébins, et d'Africains, et de Chinois, et tout ça, s'il y avait eu des frontières. Dans le monde du travail, il n'y en a pas.
Enfin, on a eu aussi la période des Trente Glorieuses qui a fait que, je parle pour la France, on était en recherche de main-d'œuvre.
Et on est toujours en recherche de main-d'œuvre parce que les pays qui se disent on doit fermer les frontières, eh bien, c'est les patrons qui disent non.
Ah bah, eux, ils ont
besoin de main-d'œuvre. Alors, je voudrais terminer avec toi, Michel, sur la notion de l'histoire ouvrière. Parce que l'histoire ouvrière, j'ai entendu des gens parler de l'évolution du monde ouvrier. On avait beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Et puis aujourd'hui, donc c'était classique. L'ouvrier, c'était un homme qui travaillait dans la sidérurgie, qui travaillait dans la mine. Voilà, c'était classique. Il y avait aussi les femmes qui étaient dans le textile, mais on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, il y a plus de femmes qui pourraient être considérées comme ouvrières parce qu'elles font des boulots qui sont très mal payés et que c'est toujours avec leurs mains qu'elles font ces boulots-là. Mais on pense aux caissières, on pense aux aides-soignantes, on pense à tous les services à la personne. Hein, et que on ne met pas, enfin la majorité des gens ne les mettent pas dans la catégorie ouvrière. Or, c'est les ouvriers et ouvrières d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
J'en pense que là, tu poses une question qui est un peu posée aussi dans le métro, puisque après 68, d'ailleurs, le Marquis Limois, ils étendent le mouvement ouvrier au mouvement social.
Il le dit.
Et que ça chagrine un peu, parce que pour lui, ouvrier, c'est pas ça. Et il y a peut-être une évolution dans la perception de ce qu'est un ouvrier ou pas. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du mouvement ouvrier comme on en parlait au 19e siècle ou au début du 20e siècle? Sans doute pas, puisqu'on parlerait plutôt de mouvement social, mais est-ce que c'est pas non plus une façon de pas vouloir reconnaître qu'il y a une évolution, mais que c'est quelque part toujours les mêmes forces en puissance? Mais là-dessus,
Il y a toujours ceux qui sont dirigés, qui est toujours ceux qui travaillent et puis les autres qui décident et qui entre les deux classes, il y a bien deux classes. Bien sûr qu'il y a un milieu avec les intellectuels, mais ça n'empêche que il reste dans le monde entier et y compris en France encore beaucoup de gens qui travaillent avec leurs mains, quoi, qui sont ouvriers ou ouvrières, beaucoup, et que on ne les mettait pas à l'époque dans le monde ouvrier. Mais le monde ouvrier, c'était aussi le monde syndical.
Oui, beaucoup. Mais de toute façon, ça évolue, parce que là, par exemple, je parlais des communards qui font partie du mouvement ouvrier. Ouais. En fait, Camélina, enfin, celui qui fait les dorures et qui est très spécialisé dans la fabrication d'ouvrages d'art, puisque c'est lui qui fait les danseuses de l'opéra. Est-ce que c'est un ouvrier? Oui, il est considéré comme un ouvrier, mais c'est aussi un artisan. Bon, il y a cette femme, dont je suis désolée de m'en m'échapper, mais qui est aussi dans la commune, qui était relieuse.
C'est
entre les deux, parce que bon, nous on a tendance à penser l'ouvrier, c'est l'ouvrier
d'ici. Nathalie Lemel.
Merci.
Voilà, Nathalie Lemel, qui était relieuse.
J'ai une mémoire horrible.
Oui, oui. Mais il y en avait une aussi qui était corsetière et qui a fait carrière avec des, parce que c'était corsetière de pour les riches, enfin, je sais pas.
Les corsets, ben, tout ce qui était.
Oui, mais pas les corsets pour les ouvriers ou les ouvrières. Les corsets.
Voilà. Pour les femmes, pour les hommes.
Voilà. Et qui s'appelle Cadol. Et aujourd'hui, ça reste encore toute la lingerie fine. Voilà, c'est ça. La lingerie fine. Aujourd'hui, on parle de lingerie fine. Toute la lingerie fine de chez Cadol qui existe toujours. Et c'était une communarde, elle aussi. Hein? Voilà, ben oui, ça évolue. Alors, dernière question, Michel. On s'arrête en 75, parce qu'il est mort en 75. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y aura
un autre film.
Un autre film.
Bah, en fait, le film ne s'arrête pas vraiment en 75, puisqu'après, il y a Penthier qui reprend, qui termine. Faut voir qu'il y a un décalage. Parce que quand il meurt en 75, c'est pas encore les tomes de 68.
Oui.
Et donc après, il y a Penthier qui reprend en 68, et puis ensuite, à partir de 81, il parle quand même de la mise sur CD-ROM, de la mise sur Internet.
Oui.
Alors, il y aura un autre film, ben, pas maintenant, tout de suite, immédiatement. faut voir comment ça va évoluer aussi, puisque là, maintenant, le CNRS, ils sont plus rue Malherbe, dans le Marais. Ils sont tout à fait dans un banlieue dans son populaire, recentré. Il y a, je pense, une restructuration sur la manière d'organiser les choses, l'entrée des notices, la façon de choisir, peut-être, on en arrive là. Donc là, c'est trop tôt pour le dire. Rendez-vous dans 20 ans.
Dans 20 ans, d'accord.
Ou alors, ce serait juste un post-scriptum.
Oui. Et tu as d'autres projets, sinon, en ce moment ?
Eh bien, en ce moment, oui, enfin, je suis en train... Alors là, écoutez, je touche du bois, parce qu'il est en lecture. Ce serait de faire un film sur le mouvement ce qu'on appelait les médias libres et les télévisions associatives dans les années 90.
Mmh.
Je pense que ça devrait rappeler quelque chose. Au Vent de Liberté, Rente sans frontières, Télé Vocale.
Vous allez à TV.
Voilà, je vois que vous connaissez vos classiques. Et donc, voilà, comme après tout, j'ai participé.
Oui.
Et que je passe mon temps à revoir finalement déjà tourner sur des années, à voir des gens 20 ans après.
Oui.
Donc, c'est ça qui est dans les tuyaux pour l'instant.
Très bien.
Mais alors, croisez les doigts. Je vais vous dire, voler les cierges parce que je ne sais pas l'endroit. Mais
bon. Voilà. Et bien, on va terminer avec une chanson qui s'appelle L'Insoumise. Et c'est Daphné qui chante. Donc, je pense que c'est dans le ton de ce qu'on vient d'évoquer, l'insoumise, parce que dans le monde ouvrier, il y en avait des insoumis.
Oh. Hein.
Voilà.
Dans une pomponnière, les mûris sont arides, je manque d'air. Tes doigts, quand j'y pense, me font prisonnière. Tu me fais la danse de la muselière. Non, je ne veux pas vivre dans un couffin vert où tes coussins avides veulent me faire taire. Hypnotique rapace, ravageant ma place, trouvant ce tintouin tout à fait ordinaire. Où est-il écrit que l'on ne ferait pas ce dont on a envie ici-bas? Aujourd'hui c'est l'hiver, la saison des pourquoi. Mais demain sera l'enfer si tu ne te lèves pas de ton lit de fatigue où tu baisses les bras. Des terres invisibles où dorment des lions. Mutante silencieuse, ne vois-tu pas les saisons qui bougent autour de toi et sont ta maison? Tu délires dans tes rêves, délires une vie en guise de peau de zèbre et tu souris. Trotteuse prise au piège, de lourds sortilèges. Allège ton parapluie, alerte tes envies. Puisque tu ne te vois pas vivre dans un royaume en verre, enfermé sous les vitres de tortionnaire. Il y a que tout est possible, de n'être plus la cible. Là c'est d'être soumise à la terre entière. Je ne veux pas vivre à bord d'une montgolfière, saluant le vide au royaume des airs. Je veux vivre sur terre, je ne veux l'éviter, là où le rire prolifère, insoumise au regret. fait la danse de la muselière. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas.
Alors, la dernière chose qu'on n'a pas dite, c'est que ton DVD est en vente à la librairie Publico.
Il va l'être.
Il va l'être, ah bon.
Non, il va l'être.
Il va l'être.
Je voulais le déposer aujourd'hui, il faisait tellement chaud.
Oui.
C'est pour bientôt.
Mais demain,
chez moi, en disant, non, là, je peux pas.
Demain, il fera moins chaud, ouais, puisqu'on va perdre, on va perdre 10 degrés. Donc, voilà. Donc, dans pas longtemps, le DVD dont on a parlé, Mémoire de l'histoire ouvrière, Le Métron, sera en vente à la librairie Publico, 145 rue Amelot.
Dans les jours qui viennent.
Dans les jours qui viennent. Alors là, on passe à des infos, des communiqués, des rendez-vous. Alors, c'est Encore Féministe, une association qui s'appelle Encore Féministe. Madame la ministre, les élèves de terminale ont passé le lundi 16 juin 2025 l'épreuve écrite de philosophie. Le texte qui leur a été remis commençait ainsi. Le candidat traitera au choix l'un des trois sujets suivants. Pourtant, les candidats sont plus nombreuses que les candidats, 55% de l'ensemble. Pourtant, la France est dotée de circulaires 1986, 1998, 2017, 2021, rappelant que les femmes doivent être nommées au féminin. La circulaire Philippe, 21 novembre 2017, appelle même expressément à recourir à des formules telles que le candidat ou la candidate, afin de ne pas marquer de préférence de genre. Certes, cette circulaire concerne les textes publiés au JO, au journal officiel, mais si l'éducation nationale ne travaille pas elle-même à la généralisation de ces usages, qui le fera ? Pourtant, il aurait suffi d'écrire « Vous traiterez au choix l'un des trois sujets suivants. » Vous traiterez, c'est neutre. Lundi, 213 000 candidates ont été niées dans leur identité sexuée. Continuer à s'adresser au masculin, à des filles et à des femmes, c'est faire perdurer la domination masculine. C'est entraver la réalisation du projet de la République dont l'égalité est l'un des fondements. Madame la ministre, avec le réseau Encore Féministe, nous vous demandons de veiller à une rédaction égalitaire des textes émanant de vos services. Adèle Figman, Eliane Viennot, Florence Moreno et Marie-Noël Bas. Autre information, deux membres de Zéro Macho ont été nommés au Haut Conseil à l'égalité. Il s'agit de Fred Robert et de Pierre-Yves Ginet. Le Haut Conseil à l'égalité, c'est une instance consultative indépendante fondée en 2013 et présidée par l'ancienne ministre Bérangère Couillard. Le rôle du Haut Conseil à l'égalité est notamment, dans les domaines de sa compétence, d'émettre des recommandations à destination du gouvernement et des parlementaires au sujet de la rédaction de lois et aussi de contribuer à l'évaluation des politiques publiques. Tous les ans, le Haut Conseil à l'égalité rend public un rapport portant sur l'état du sexisme en France. Fred Robert et Pierre-Yves Ginet sont membres du CA, donc Conseil d'administration de Zéro Macho. Fred Robert en est aussi vice-président et porte-parole. Ils tenteront de rappeler que 1. La loi Olivier Coutel de 2016 contre le système prostitutionnel est peu appliquée et très inégalement selon les départements. 2. la circulaire interministérielle annoncée par la ministre Aurore Berger est attendue depuis le 1er mars 2025. Elle a pour objectif la fermeture des prétendus salons de massage qui sont en réalité des lieux de prostitution, comme l'a établi Zéro Macho. Ceux-ci sont au moins 426 à Paris. SOS homophobie.
Ça fait longtemps que ça dure, ça.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est l'histoire de salon de massage. Ça fait des années, des années, des années.
Mais là, il y a 426 qui sont des lieux de prostitution et non pas seulement des salons de massage.
Oui, oui, mais c'est ce que je voulais dire.
Il suffit de rentrer et de dire c'est combien pour les finitions et voilà. Et ça, ça.
C'est joliment fait.
Voilà. Bah oui, parce qu'ils peuvent pas l'afficher comme ça. Hein. Voilà.
Il y a des codes.
Voilà. Alors SOS homophobie, puisque on a les fiertés ce week-end, publie la 29e édition de son rapport annuel afin de dresser un état des lieux des violences, discriminations et obstacles auxquels sont confrontées les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes en France. À partir des vécus des personnes qui ont témoigné auprès d'elle, mais aussi de son analyse de l'actualité et des évolutions politiques et sociales, SOS Homophobie constate un climat politique et social réactionnaire qui ne cesse de prendre pour cible les personnes LGBTI. Le mal de vivre suscité par la banalisation des discours de haine renforce les dynamiques d'exclusion subies par les personnes LGBTI et brise le tissu social. Par ce rapport, l'association souligne la nécessité de remettre au centre de l'espace politique et social les vécus des personnes LGBTI et la lutte contre toutes les discriminations. Cité des droits des femmes, le vendredi 27 juin de 18h à 21h à la Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard à Paris, la Cité des droits des femmes présentera, entre autres, ses nouveaux posters sur les droits des femmes et sur LGBTQIA+. Là, il y en a un petit peu plus de lettres. Ça va aussi balancer dur grâce à Gloria et Daisy avec du queer punk aux paroles franches qui changent les salons doux parisiens, mais aussi la parole d'élus sur notre projet sur les droits LGBTQIA+. Et le samedi 28 juin, la Cité des droits des femmes, dès 13h30, défilera dans la Marche des Fiertés. Donc rendez-vous Palais-Royal à 13h30 jusqu'à la Place de la Nation avec un char musée ambulant. Avec l'historique des Gay Pride, des droits internationaux sur les genres et des fiches techniques, tout en couleur, évidemment. Un colloque, le colloque ANR Prodige et Amphi du Mage recruté à l'aveugle. Le 26 juin, Amphi Richelieu, à la Sorbonne de 9h à 17h, puis il y aura un cocktail et un concert du chœur de Sorbonne Université. Mais l'intérêt de ce colloque, c'est en session 1, quels effets du paravent lors des concours, présentation des principaux résultats avec Maxime Parodi, sociologue, et Hélène Périvier, responsable du programme Pressage à Sciences Po. La session 2, le genre durant recrutement, et la session 3, que cache le paravent. Donc une table ronde avec des acteurs et des actrices du secteur musical, rappel des principaux résultats de l'enquête Prodige avec Hyacinthe Ravet et un débat avec Anne-Sophie Brandalise, Émilie Delorme, Philippe Fangas, Charlotte Gino Slasic. Pour s'inscrire sur le site du MAGE, et sinon, par courriel, mage.cnrs@ shs.parisdescartes.fr. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la captation vidéo de l'événement sera rediffusée sur la chaîne YouTube du MAGE. Et d'ailleurs, toutes les rencontres du MAGE, les amphis du MAGE, sont à chaque fois captées par la vidéo et disponibles. Le dimanche 29 juin, de 12h à 18h, Maison des Femmes de Paris, 163 rue de Charenton, dans le 12e. Et bien, ça sera la fiesta à la Maison des Femmes, un moment festif et sorore. Et là, on va écouter Alex Montembeau à l'autre bout du téléphone.
Noyer l'hiver d'un verre de trop, c'est pas si cool que s'en a l'air. Je rentre en ville un peu plus tôt pour t'épargner mes fausses manières. Je voudrais te voir un peu plus souvent. Je sais pas comment te le dire comme il faut. Je voudrais que tu sois heureuse de temps en temps, sans tout porter comme un fardeau. Laissez s'exprimer les enfants, laissez s'exprimer les sentiments, c'est naturel et rien de plus. Laissez s'exprimer les enfants, laissez s'exprimer les sentiments, c'est naturel et rien de plus. Mais y'a pas d'âge pour s'envoler, et t'es pas seule, je te promets. Tu pleures un peu pour libérer les douleurs passées, les regrets. Oh maman, c'est pas ta faute et tu le sais. On a fait voir de toutes sortes, un entourage un peu compliqué. T'as jamais pu dire non aux autres. J'aimerais que tu laisses ta maison au soleil, te faire des amis à la mer, t'entendre rire à l'autre bout du tel, sans te préoccuper des horaires. Laissez s'exprimer les enfants, laissez s'exprimer les sentiments, c'est naturel et rien de plus. Laissez s'exprimer les enfants, laissez s'exprimer les sentiments, c'est naturel et rien de plus. Mais y'a pas d'âge pour s'envoler, et t'es pas seule, je te promets. Tu pleures.
Nouvelle chanson d'Alex Montembeau. Alors, on continue, on est sur Radio Libertaire dans l'émission Femmes Libres et on continue à donner quelques infos. Il y a une exposition Folie d'art, regard d'artiste à Viroflay. C'est Katmat et ses comparses qui organisent ça, donc du 18 juin jusqu'au 6 juillet. Et puis Katmat propose aussi un dialogue entre émotions poétiques et aquarelles aux couleurs vibrantes. Voilà, donc Viroflay, c'est la galerie 120 avenue du Général Leclerc, à, dans le 78, 220, Viroflay. Et c'est à 5 minutes à pied de la gare RER C et Transilien N par la gare Montparnasse. Alors, toujours 4 maths, il y a aussi une exposition mixte, art visuel et texte jusqu'au 30 juin. Aquarelle, poésie, slama, photographie au MAG. Et là, c'est 35 rue Quincampoix dans le Paris 4e, métro RER Châtelet-Léal. Et c'est pas tous les jours, donc je précise que c'est là, dans la date qui vient, ben non. Dans la date qui vient, il n'y a pas... si, il y a le mercredi 25, mais c'est aujourd'hui, c'était de 18 à 20 heures. Alors, sinon, à la Cité Audacieuse, le mardi 1er juillet, c'est... Cité Audacieuse, c'est toujours 9 rue de Vaugirard, dans le 6e. Je rappelle que c'est une ancienne école publique et qui a été cédée par la ville de Paris pour des associations féministes. Ça sera les mardis de la clé, coordination française du lobby européen, et sur le thème « La transmission intergénérationnelle et les femmes d'outre-mer » organisée par l'association Femmes au-delà des mers. L'entrée est libre et le contact courriel, c'est clé, alors comme une clé, C-L-E-F, .femme au pluriel, donc clé.femme, @gmail.com. On va aller du côté de Pont-Aven, avec au musée de Pont-Aven, Sorcières, Fantasmes, Savoir, Liberté. Et c'est en partenariat avec le musée d'Orsay, une exposition inédite sur la représentation des sorcières dans l'art entre 1860 et 1920. Au musée de Pont-Aven, c'est dans le Finistère. Et les dernières publications des éditions du Monde Libertaire, Séquences Libertaires de MLT Texte et OLT Dessin. Et c'est un album à 15 euros. Je rappelle qu'on avait fait une émission avec Holt et qu'on avait repéré qu'il y avait un certain nombre de femmes, dont Nelly Trumel, qui avait créé cette émission Femmes Libres. Il y a une belle page sur Nelly Trumel dans cet album. Et autre publication des éditions du Monde Libertaire, L'anarchie des météores, une analyse savante et critique de la question climatique. Et c'est un livre de Philippe Pelletier à 10 euros. On écoute Le temps des cerises. Eh bien, ça annonce ce qui se passe à la librairie Publico, au 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkamp, Fille du Calvaire. La librairie est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, du mardi au samedi, pour cette période des vacances. Hein. Mais là, c'est encore ouvert dimanche, puisqu'on n'est pas encore au mois de juillet. Et le samedi, c'est même ouvert à partir de 10h. Donc, pendant les dimanches de juillet et d'août, ça ne sera ouvert que du mardi au dimanche de 13h, du mardi au samedi de 13h à 19h30. En ce moment, il y a une exposition depuis le 21 juin jusqu'au 12 juillet sur l'intelligence artificielle contre leurs rêves de Julie Gaud. Le 28 et le 29, donc c'est samedi et dimanche, il y a une grande braderie avec des livres et des disques de 1 à 5 euros. avec des animations. À 15h30 samedi, ça sera Arnaud le facteur et Mana la diseuse de mots. Il et elle sèment les mots des poètes et les ritournelles d'amour et de lutte le long des rues et des chemins pour que subsiste la voix de ceux qui rient, vivent et résistent dans ce monde foutraque. Le dimanche, une autre animation à 15h30, c'est le groupe Dio, répertoire de chansons à texte dans un esprit électroacoustique, un regard amusé et révolté sur les réalités du monde d'ici-bas. C'est un répertoire de chansons tantôt joyeuses et teintées d'ironie, tantôt émouvantes. Donc, grande braderie. Je regarde sur l'affiche exactement les horaires, que je me trompe pas. C'est de 11h à 19h, samedi 28 et dimanche 29 juin, à la librairie Publico, 145 rue Amelot. Le jeudi 10 juillet, à 19h30, il y aura une projection-discussion. La futurologie est-elle une science exacte ? Avec la présentation de Soleil Vert de Richard Fleischer, à l'initiative du groupe Libertaire d'Ivry. Et pour la semaine prochaine, on sera donc au mois de juillet, le 2 juillet, et de Ève à Philomène, sans oublier les autres, ce sera le portrait de Marie Lavoisier, 1758-1836, née Marie-Anne Pierrette-Pauls, et qui est une scientifique, chimiste, une illustratrice, une traductrice française. Alors, on connaît son mari, Monsieur Lavoisier, mais il est important de parler de Marie Lavoisier, qui a travaillé avec lui et qui a fait de très nombreuses traductions scientifiques et des illustrations pour, évidemment, tous les articles scientifiques que lui et elle produisaient. Ensuite, nous recevrons Lucie Giacometti pour un roman qui s'appelle Cosmopole. C'est pas souvent qu'on accueille des romancières, mais là, ça nous semblait important et vous allez comprendre pourquoi. L'éditeur, c'est Les Impliqués, il vient tout juste de sortir. Alors, en subvertissant les règles grammaticales tout en alliant analyse sociologique, poésie et aventure, l'ouvrage met en lumière par effet miroir la domination des femmes par les hommes dans notre société. C'est l'histoire d'un jeune sans-abri, ancien libraire, qui tente d'échapper à une dictature matriarcale, fémo-nationaliste et écocidaire, en gagnant la cosmopole tout en déjouant la surveillance de l'État policier. En fait, c'est toute une écriture qui remet au féminin tout ce qu'on a l'habitude de voir écrit au masculin. Et c'est extrêmement déroutant dans la lecture, mais c'est ça met encore plus en valeur la domination des femmes par les hommes, quoi. Voilà. Eh bien, on va vous dire bonsoir. Merci Fred d'avoir assuré la régie. Merci à Michel pour d'être venu nous parler du Métron dans ton documentaire. Et on termine en disant « Féministe tant qu'il le faudra » avec Estelle et Sylvestre, l'hymne des femmes.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps. Nous sommes privés de mémoire. Debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout, 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 debout.
Petite fille sans nourrice, arrachée du soleil. Il pleut toujours sur ta valise, ta mal aux honnêtes. Tu sautes toujours entre deux buts, entre deux SOS. Tu veux jouer ton aventure de temps crève. De 4 à 5 heures du matin au fond des cas. boulot. Tu remontes à contre-cœur l'escalier de service. Tu voudrais qu'il y ait des ascenseurs au fond des précipices. On me laisse allumer, bébé, y'a personne. Se touche, se pousse, se fout, se bouge. On me laisse allumer, bébé. Y'a personne au contrôle. Et les dieux du radar sont tous à eux de tous. Se touche, se pousse, se fout, se bouge dans la soute à cartouche. Maintenant tu m'offres tes carences, tu cherches un préambule. Quelque chose qui nous fout en transe, qui fasse mousse nos bulles. Si t'as peur de nos silences, reprends ta latitude. Il est minuit sur ma fréquence, j'ai mal au globule. On me laisse allumer, bébé, y'a personne au contrôle. Et les dieux du radar sont tous à eux de tous. Elles se touchent et se poussent, elles se foutent et se bougent. On me laisse allumer, bébé, y'a personne au contrôle. Et les dieux du radar sont tous à eux de tous. Elles se touchent et se poussent, elles se foutent et se bougent. On me laisse allumer.